Et oui, vous l'avez compris, c'est bien l'agité du local, mais une agité du local un peu spéciale puisque nous sommes en direct du Tour de France, le Tour de France aujourd'hui en Mayenne et à Laval, donc en Mayenne évidemment sur une épreuve de contre-la-montre, 27 km 200 pour être précis, entre Changé et Laval. Mais je ne serai pas toute seule bien sûr pour vous faire vivre cette étape du Tour de France ici à Laval, puisqu'il y a Benoît avec moi en studio. Bonjour Benoît.
Bonjour, bonjour à tous, très heureux d'être là sur Sport Épique. On en parle depuis 2 mois avec passion, ça nous rend complètement dingue et c'est enfin le jour J, on va disséquer tout ça avec vous messieurs dames.
Et oui, enfin le jour J, parce que c'est vrai qu'on l'a attendu ce Tour de France, donc tu seras un petit peu notre spécialiste vélo lors de cette émission. On va voir justement quels sont un peu les enjeux de ce contre-la-montre, c'est la 5e étape, on va voir un petit peu justement comment certains peuvent se placer pour la suite, pour les étapes de montagne la semaine prochaine. En tout cas, vous le voyez, vous, peut-être autour de vous, si vous êtes ici à Laval, ça y est, la caravane est passée, il y a déjà plein de monde qui s'est massé sur le bord des routes, il y a aussi le fan park qui s'est ouvert au square de Boston avec 800 personnes maximum. Vous pouvez y aller, on rappelle, sans passe sanitaire. Il suffit d'y aller comme ça, en attendant peut-être le passage des coureurs. Mais en attendant le passage des coureurs, pas tellement, puisque le premier vient de partir depuis 1 minute 30. Il s'est lancé de Changé, justement, et il va se diriger et donc suivre justement ce parcours qui va l'emmener ensuite vers Saint-Germain-le-Fouillou, ensuite Saint-Jean-sur-Mayenne, revenir vers Louverné, puis Bonchamp et enfin Laval ici. Justement, Benoît, sur ce parcours, quelles vont être les difficultés pour les coureurs ?
Je vois que tu as bien travaillé déjà. J'espère que tu l'as fait sur les semaines passées. Les difficultés, elles sont tout de suite. C'est pas compliqué. Vous partez à froid dans une belle bosse. Alors, les spécialistes vont vous dire que ce ne sont pas des bosses. Moi, je peux vous dire, je l'ai fait. On est plusieurs à l'avoir fait. Et nous, on confirme, pour nous, Mayennais, ce sont quand même des bosses. Donc, vous allez enchaîner 2 premières belles bosses sur le premier kilomètre. Ensuite, ça va vous amener tranquillement jusqu'à Saint-Jean-sur-Mayenne. Et là, c'est pareil. Vous reprenez une bosse assez longue. Vous devez connaître, messieurs, dames, vous êtes du département, qui vous amène de Saint-Jean jusqu'à Louverné. Elle va être sur 2 km. Ça ne monte pas énormément, mais par contre, elle est longue. Et si vous avez un petit vent de face, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, eh ben, ça peut mettre de la difficulté. Et après, c'est gagné. Après, très clairement, vous partez pour un contre-la-montre de pur rouleur, puisque vous avez de Louverné, on va aller vers Bonchamp, on va retrouver Laval, et là ça roule. Et on reprend les petites difficultés de centre-ville derrière. Là, il faut être un petit peu spécialiste pour prendre les épingles et ainsi de suite. On finit sur cette belle bosse également qui vous amène à ce magnifique espace Mayenne où il y aura l'arrivée de notre course.
Exactement, puisque d'ailleurs nous, le studio, nous sommes tout près de cette montée dans la rue Léo Lagrange. Justement, c'est la dernière montée juste avant l'espace Mayenne. Donc si j'ai bien compris, vraiment, tout va se jouer dans le premier tiers de ce parcours ensuite pour se placer pour les coureurs.
C'est très clairement, il y a 2 profils d'étape et on sait qu'il y a 2 profils de coureurs. Il y a les punchers et il y a les rouleurs. Et ben, au départ, c'est clairement un tour de puncher. Donc, on parle d'Alaphilippe. Alaphilippe, je pense que ce nom parle à tout le monde. Et ensuite, ça devient un tour de rouleurs, plus pour des Roglic, plus pour des Pogacar. Ces noms que vous avez entendus également, puisqu'ils étaient premier et deuxième l'an passé au général.
Et justement, sur cette étape, il y en a forcément qui sont déjà favoris. Quel nom te viennent en tête justement pour ceux qui peuvent peut-être faire la différence à l'arrivée au chrono ?
Alors sur ce chrono, Marie, je vais te dire, il y a déjà 3 enjeux. C'est très clair, c'est comme tu le dis, qui va gagner cette étape ? Alors sur l'étape en elle-même, alors c'est des noms, c'est pareil, vous n'êtes peut-être pas spécialiste, vous ne connaîtrez peut-être pas, mais on a un Kampenaerts qui est champion du monde de la spécialité, donc évidemment gros client. On a Kungs, c'est pareil, je ne suis pas gros spécialiste des noms, mais le Suisse de la FDJ, qui est champion d'Europe également de la spécialité. Et Richie Porte, qui parle un petit peu plus, puisque c'était un des favoris à l'époque, qui n'est pas leader de son équipe, mais par contre, c'est très, très costaud au contre-la-montre. Voilà, après, on a du Van Aert, qui actuellement est 4e et qui peut... C'est toujours pareil, vous êtes galvanisé quand vous êtes dans les 5-10 premiers, vous n'êtes pas forcément spécialiste du contre-la-montre, mais comme vous avez un maillot jaune sur le dos ou une 5e place à défendre, défendre ou des enjeux comme ceci, eh ben, ça galvanise. Et on voit, c'était Alaphilippe il y a 2 ans, qui, pour le coup, n'était pas du tout considéré comme un spécialiste. Eh ben, il va gagner l'étape du contre-la-montre parce qu'il avait le jaune sur le dos et parce que vous avez la France en terre derrière en train de gueuler Alaphilippe. Forcément, ça galvanise et c'est pour ça que c'est fabuleux aussi.
Et je pense que justement, Alaphilippe sera bien soutenu là aussi par les Mayennais et par tous les gens au bord du tour, puisque donc là, il n'a plus le maillot jaune. Hein. Il a eu la première étape. Il est seulement deuxième, mais à seulement quelques secondes, 8 secondes, je crois, du premier Van Der Poel. Donc là aussi, ils peuvent chacun en tout cas essayer, même si ce n'est pas forcément leur spécialité, comme tu l'as dit, de tirer leur épingle du jeu. Et puis en tout cas, sur ce, on va revenir un petit peu plus tard sur les enjeux, vraiment sur le classement général et la suite, en tout cas, du tour. Mais en tout cas, vous le savez, même si là, les premiers coureurs passent devant vous, eh bien, les rues étaient bloquées très tôt ce matin. Oui, forcément, au niveau de la circulation, il a bien fallu, puisque les coureurs, là aussi, se sont entraînés, et puis au niveau de la sécurité. Et pour cela, en tout cas, il y a beaucoup de bénévoles qui ont été mobilisés. Et parmi eux, on va retrouver Christine Potier, qui est donc la présidente de Vélo Passion Laval, qui, justement, est signaleur depuis 7h30 ce matin jusqu'à 13h, et qui va, justement, nous raconter un petit peu comment c'est passé l'installation sur place, comment les gens se sont arrivés. Christine, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien, ça va.
Très bien, alors comment ça se passe pour vous justement depuis ce matin sur le bord du terrain ? J'allais dire, on n'est pas au bord d'un terrain de foot, mais en tout cas sur la piste devant vous et puis avec les spectateurs qui sont arrivés, j'imagine, petit à petit ?
Alors, les spectateurs sont arrivés effectivement doucement. Hein. Moi, j'étais là à 7h ce matin. Bon, c'est arrivé doucement. Tout le monde était forcément contre les barrières en attendant avec impatience la caravane. Ça y est, donc là, c'est terminé. Elle est passée. Donc là, maintenant, ça s'est vidé un petit peu. Bon, je pense que les gens sont partis pique-niquer. Et puis, ils ne vont pas tarder à revenir puisque les premiers coureurs sont partis de changer, eh bien, ils devraient être là d'ici une bonne demi-heure, on va dire. Moins d'une demi-heure maintenant, certainement.
Oui, c'est ça, puisque là, le premier coureur est attendu plutôt dans 25 minutes. En tout cas.
Ouais.
Oui, et alors justement, j'imagine que vous avez donc vous été un petit peu dans les coulisses, puisqu'à 7h du matin, peu de gens étaient autour du tour, déjà comme vous mobilisés. Qu'est-ce que ça fait de voir tous ces gens justement prêts à applaudir les coureurs, donc à voir la caravane, on l'a dit, mais aussi prêts à applaudir les coureurs, surtout pour vous qui êtes présidente d'une association de vélo?
Alors c'est vrai que moi ce matin, ce qui m'a marqué, c'est que je suis venue, donc là, parce que je suis à 500 mètres de la ligne d'arrivée, je suis venue donc avec mon vélo pour traverser toute la ville et j'ai emprunté toute une partie du circuit. Ben c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que la rue était vide, vide oui et non, parce qu'il y avait toutes les personnes qui étaient en train de mettre en place les pancartes sur les barrières. Donc c'était un climat vraiment, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai rencontré des élus, j'ai rencontré d'autres personnes, on a discuté le long de la route, enfin vraiment une ambiance très bon enfant, très très sympathique. Et puis non, là, bon, c'est vrai que c'est pas l'endroit où il y a le plus de monde d'amasser. Donc ça reste très convivial, très agréable.
Très convivial et très agréable. Et vous le disiez, oui. J'imagine que ça fait du bien aussi de voir le vélo à l'honneur pour toute la journée.
Bien sûr, bien sûr. Et puis aussi, le fait de retrouver du public sur une épreuve comme ça, le côté convivial, quoi. Bon oui, les gens se précipitent, certaines personnes se précipitent un petit peu pour récupérer les petits gadgets de la caravane, mais voilà quoi, ça se passe vraiment dans la bonne humeur.
Très bien, dans la bonne humeur, c'est ce qu'on a retenu en tout cas. J'imagine qu'après, donc là, pour bien expliquer à nos auditeurs, vous étiez donc signaleur, donc depuis 7h ce matin jusqu'à 13h, vous vous occupiez en gros de sécuriser une entrée pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui essaient d'entrer. Et là justement, ça y est, vous allez profiter de l'étape et applaudir les coureurs cet après-midi ?
Alors de toute façon, là je vais les voir passer, enfin les premiers je vais les voir passer, puisque je suis juste en bordure du circuit. Et puis effectivement, donc j'ai une relève qui arrive normalement pour 13h30. Et puis après, je vais rejoindre, je pense, plutôt le centre-ville. et puis les voir passer dans le centre-ville avec une autre ambiance forcément. Hein, chaque point est différent, donc c'est ça aussi qui fait le charme de cette épreuve, de pouvoir se promener à différents endroits.
Ok, bah exactement. On va vous laisser en tout cas finir votre mission des signaleurs et ensuite rejoindre le centre-ville où peut-être qu'il y a un peu plus d'ambiance parce que forcément un petit peu plus de spectateurs. Merci beaucoup Christine.
Je vous en prie, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi. Mais surtout, vous restez avec nous puisqu'on va continue de vous faire vivre cette étape du Tour de France, la cinquième ici en Mayenne. Et vous l'avez compris, donc il y a plusieurs rôles qui permettent cette bonne organisation du Tour de France ici à Laval. Des signaleurs comme Christine que vous venez d'entendre, mais aussi des secouristes qui sont présents tout au long du parcours. Ils sont une soixantaine avec la Croix-Rouge, mais aussi avec la protection civile, donc là aussi un petit peu plus au total. Et justement, je vous propose d'entendre le témoignage de Clément Chauveau. C'est le directeur territorial de l'urgence et du secourisme et c'est lui qui s'occupe de toute la logistique pour le Tour de France.
Je suis le directeur territorial de l'urgence et du secourisme. Je m'occupe de la coordination du secourisme sur le département pour la Croix-Rouge de la Mayenne. Pour le Tour de France, on est quand même sur un dispositif de grande envergure, donc on est à plus de 60 secouristes sur le terrain avec une coordination et des procédures, bien entendu, liées à l'événement ainsi qu'au règlement des dispositifs de secours. On sera donc à 6 endroits différents, à Changé, salle des Ondines, à Changé également au nord, place du cimetière. On sera présent à Saint-Jean-sur-Mayenne, à Saint-Germain-le-Fouillot également, et bien entendu sur Laval, où il y aura un concentré important de personnes. Bon, on a également nos confrères de protection civile qui seront là, bien entendu, on ne peut pas tout assurer seul, quoi. S'il fait vraiment beau, on pourrait vraiment tomber sur beaucoup de malaise. Et s'il fait moins beau, ça risque d'être un peu moins conséquent. Depuis mars, fin mars, oui, je m'y suis mis à chercher du personnel, recenser du matériel. C'est ça que tout le monde voit, en fait. C'est gérer au mieux, anticiper également la catastrophe, qu'on n'espère pas, hein, tout ce qui est des risques attentats, etc. Tout ce qui est du vigipirate, les catastrophes naturelles aussi, on est à l'abri de rien. Donc tout est anticipé dans ce type de réunion. On a des gens qui vont arriver de la veille, des gens qui vont venir de très loin, il y a des gens qui vont venir d'Alsace, du Pas-de-Calais, du sud de la France, pour venir assister et nous renforcer sur ce dispositif du Tour de France. Ça fait drôle, on va le dire comme ça, parce que le Tour de France, c'est le Tour, quoi. Le Tour de France, quoi. Les gens se disent, le Tour de France, ça passe à la télévision. On a vu ça peut-être depuis tout petit pour certains. J'ai vu le Tour de France quand j'étais petit. C'est vrai qu'un dispositif de secours, comme une course à pied avec 4 secouristes, bah, c'est vrai que voilà, c'est du courant, on va dire. Voilà, c'est que là, on est vraiment sur un... C'est le Tour de France, il faut que j'y aille. Ça fait drôle, ça fait bizarre parce que effectivement on gère un flux de personnes important. Après, c'est une ambiance festive, donc généralement les gens sont vraiment contents de venir.
Et on l'espère que vous la sentez justement cette ambiance festive tout au long du tour que vous vous situez aussi bien à Changé, à Saint-Jean-sur-Mayenne qu'ici à Laval. Puisque, alors ce sont des estimations, c'est très difficile à chaque fois de savoir exactement combien de personnes sont présentes sur le parcours. Mais 100 000, voire même jusqu'à 130 000 spectateurs étaient attendus le bord des routes. Et surtout avec une forte concentration à Changé, notamment pour le village départ. Évidemment, c'était le village départ qui était prévu à Changé avec les coureurs qui se sont entraînés depuis ce matin. Ils ont fait des tours justement. Benoît, comment est-ce qu'ils se préparent les coureurs le matin? Est-ce qu'ils font des tours de reconnaissance pour un contre-la-montre? Comment ça se passe en général?
Alors déjà, il faut le voir en amont, hein, parce que tu parles de ce matin, mais vous avez certainement lu dans la presse et vous avez peut-être eu la chance de les croiser sur les routes. Mais je peux vous dire que tous les favoris du Tour sont déjà venus reconnaître l'étape. Il y a 2 semaines, on a pu voir Roglic, on a pu voir Warren Barguil, on a pu voir des Carapaz, des gros noms du cyclisme qui étaient là. Pour le jour J, donc pour aujourd'hui, je vous dis, c'est vraiment un contre-la-montre de puncher et qui part sur du très très costaud au départ. Donc vous avez intérêt à être très très échauffé. On n'est plus sur les contre-la-montre de 60 km d'il y a 15-20 ans où les coureurs pouvaient se permettre de s'échauffer sur les premiers peut-être kilomètres de l'étape. Là, vous devez rentrer dans le vif du sujet tout de suite, sinon vous montez dans le rouge, vous êtes oxy et vous n'avez plus de ressources derrière. Donc là, ce qui se passe pour les coureurs qui s'élancent, ils sont sur home trainer. Les home trainer, c'est les vélos d'appartement, si on veut, et ils tournent, et ils tournent, et ils tournent, et ils tournent. Et tous les ans, nous avons les très belles boucles de la Mayenne, donc on peut voir place du RC, on peut les voir s'échauffer avant le prologue, mais vous les voyez dans un état à la fin de leur échauffement, vous avez l'impression que le mec, il va déjà crever sur place, il n'a pas commencé son, son vélo encore. Et donc là, aujourd'hui, ça va être ça pour les plus grands spécialistes. Ils vont se la donner énormément avant parce qu'il va falloir être prêt.
Puisque justement, il y a toute cette préparation qui est très importante puisque, on l'a dit, c'est une épreuve rapide. Et ça se voit justement dès le départ et sur le départ à Changé où on va retrouver Ben justement. Ça y est, les premiers coureurs se sont élancés là-bas à Changé. Ben, qu'on va retrouver peut-être bientôt parce qu'on l'a perdu. Nous sommes en direct, ça arrive, c'est pas grave, on va essayer de le retrouver tout à l'heure en tout cas. Donc il y a toute cette préparation. Mais alors justement, est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour attaquer aussi fort avec direct des bosses pour justement les coureurs, pour qu'ils se mettent en condition pour ne pas être stoppés, on va dire, par ces bosses et par ce parcours?
Donc sur le home trainer, c'est très très bien fait maintenant. Ils peuvent modifier la déclinivité de leur échauffement sur le vélo d'appartement, si on peut dire ça comme ça. Donc là, ils savent très bien qu'ils vont s'attaquer à du 6% sur une bosse qui va durer à peu près un petit kilomètre. Elle va durer 700-800 mètres. Donc eux, ils vont régler leur vélo pour simuler cette bosse-là et pour se mettre dans le rouge pour préparer cet effort. Et donc, et alors là, je vous parle évidemment, c'est les plus grands spécialistes qui vont faire ça et ceux qui veulent se placer au général. Si vous n'avez aucune ambition ni sur l'étape ni sur le général final, évidemment, et bien sûr, vous allez plus mollo sur l'échauffement et vous laissez passer la course tranquillement, vous récupérez pour les étapes qui vont venir. Donc attention, quand vous êtes à Changé, regardez bien les profils, vous allez voir, je vous dis, c'est leaders qui vont être à bloc et tous les autres qui vont en fait prendre cette étape comme une étape de récupération, quasiment une étape de repos pour être prêt pour aider leur leader par la suite.
C'est ça, et pour vraiment se mettre à fond sur les autres étapes qui demanderont.
Exactement, au service de leur leader, tout à fait.
Puisque on le sait, oui, donc chaque équipe a un leader et donc ses coéquipiers qui travaillent pour lui. Mais justement, nous avons à nouveau perdu Ben en direct du village départ à Changé. Donc on l'a dit justement, il y a toute cette préparation. C'est ça qui se passe avant cette grande course, Benoît.
Oui, et il y a surtout quelque chose à prendre en compte, c'est le psychologique. C'est-à-dire que là, vous avez les coureurs, ils ont commencé à se lancer, les premiers ont commencé à se lancer, là, donc on est sur les coups de 12h30, ils ont dû démarrer à 5-10 minutes, et le dernier ne partira qu'à 17h30. Donc dans la tête...
16h50.
Excuse-moi, 16h50, pardon.
L'arrivée est prévue,
oui,
à 17h30.
C'est pour ça, excusez-moi. Et dans la tête, c'est un vrai travail aussi, parce qu'il faut être prêt à attendre toute cette journée, à voir tout le monde qui part, à entendre tous ces spectateurs, à entendre les temps qui commencent à tomber, les performances qui commencent à être faites, et vous êtes encore dans votre bulle, à pas commencer votre échauffement trop tôt, sinon vous allez vous cramer, ne pas le commencer le trop tard, sinon vous serez pas dans la course. Et c'est, on disait à l'époque, le fameux, et attention, je respecte énormément, mais un Thibaut Pinot, par exemple, qui, on le dit après, moi je suis pas dans sa tête non plus, hein, mais qui psychologiquement c'est plus dur pour lui, et ben très certainement ces positions-là pour lui sont difficiles. Alors qu'un Alaphilippe, Alain Philippe, il est prêt à ça. Ça a l'air d'être un tueur qui est prêt à ça, qui est prêt à recevoir toute la gloire d'un public. Et lui, on sait qu'il va devoir attendre là toute la journée avant de s'élancer, puisqu'il va partir en avant-dernier. Mais psychologiquement, il va tenir le coup.
Donc la partie psychologique très importante, puisque oui, justement, comme tu le rappelais, en fait, là, le classement se fait à l'envers. C'est-à-dire que ce sont les derniers qui sont partis depuis midi et quart. Et c'est donc bien, on va finir par le maillot jaune. Donc c'est lui qui partira à 16h50 ce mercredi. Donc d'où c'est l'importance de pouvoir gérer la pression et les temps que feront les autres.
Les temps intermédiaires qui tombent, tout à fait, ça, ils les ont en temps et en heure, évidemment, et eux vont calquer leur course aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire les premières bosses complètement à fond si vous sentez que les temps sur ces temps intermédiaires-là, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est pas dans le bon tempo.
Ah, c'est-à-dire que même pendant le parcours, ils ont une évaluation.
Okay. Oui, ils ont une évaluation permanente, quoi. Oui, oui.
Donc ça, forcément, surtout pour de grands coureurs comme ça, c'est très important et on ne s'élance pas dans une course sans le savoir bien avant. Justement, sur ce parcours, sur les 27 km 200, eh bien, il y en a qui l'ont déjà fait la veille. Je parle notamment des féminines et aussi des coureurs masculins qui ont fait le tour hier donnant des ailes au vélo pour promouvoir justement le cyclisme féminin. Ils étaient donc une petite dizaine à s'élancer hier matin sur ce circuit donnant des ailes au vélo. Et donc je vous propose justement d'entendre certaines et certains des participants interrogés par Claire.
Moi, c'est Nadia, je suis de Laval et c'est une première pour moi de participer à la course Donnons des ailes. Alors, je suis allée le voir, je suis allée le faire deux fois. Ça va, il est court, mais après, au départ, un peu dur avec la petite bosse, mais ça devrait aller. Et puis, on a le beau temps aujourd'hui avec nous, donc ça va être parfait. J'espère que le cyclisme au niveau féminin va prendre de l'ampleur et je pense qu'on n'est qu'au début par rapport à tout ce qui va se passer sur le cyclisme féminin et le sport en féminin en général. C'est un essai en fait, j'ai loué un vélo pour me tester avant de pouvoir choisir un bon vélo après et pouvoir faire un peu plus de route.
Bon, je me présente, c'est Christian, je suis le papa de Valérie Jeudy qui habite maintenant dans les Pyrénées. Elles sont courageuses parce qu'il faut le faire tous les jours. Même nombre de kilomètres que les hommes et elles sont aidées de personne. Les routes ne sont pas barrées pour elles, rien. Elles partent à 8h30 le matin. Des fois, elles arrivent à... L'année dernière, on a fait des cols, elles arrivent des fois à 18h, 18h, 19h.
Bonjour, je m'appelle Heidi Gauguin et je suis cycliste au club du Vélo Saint-Georges Aventure. Donc moi, je suis licenciée depuis 6 ans maintenant. Je prends cette nouvelle avec beaucoup de joie. C'est vrai que c'est une grande avancée pour le cyclisme d'avoir un Tour de France féminin. Donc on a très hâte.
Effectivement, cette grande nouvelle dont parlait Heidi Gauguin, la championne de paracyclisme ici en Mayenne, c'est donc le retour du Tour de France, en tout cas le Tour de France féminin en 2022, qui passera peut-être par la Mayenne, qui sait, on ne sait pas encore, on n'a pas encore eu le circuit, mais aujourd'hui c'est donc bien le Tour de France masculin, le Tour de France, qui passe ici en Mayenne, et qui passe, donc on l'a dit, avec une arrivée prévue à Laval, à l'espace Mayenne, mais qui avant va arriver à Laval, et en tout cas il y a certainement le premier coureur qui vient d'arriver bientôt à Laval. François, est-ce que vous l'avez vu passer ?
Non, du tout. Je pense que ça devrait pas tarder. En fait, là, en fait, moi, je suis situé au niveau de l'avenue de Chanzy. En fait, enfin, tout le long de l'avenue de Chanzy, et puis après, ils tournent sur le boulevard Félix Grat. En fait, ils arriveront du rond-point de Bonchamp. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de coureur. On attend le coureur Janssen, hein, le coureur danois, en fait, qui a 27 ans et que c'est sa quatrième participation à ce Tour de France. C'est pas lui qui gagnera ce Tour de France, mais en tout cas, voilà, il va essayer de se battre pour ce contre-la-montre. Et on l'attend toujours, effectivement. Et après, on aura la chance d'avoir le premier Français qui passera. Ça sera Clément Russo, excusez-moi, de l'équipe Arkea, qui lui est un champion de cyclocross. Et qui participe aussi à ce Tour de France cette année. Et donc, on attendra le premier Français arriver ici à Laval.
Je pense qu'ils vont d'ailleurs bientôt arriver, puisqu'on entend les voitures qui passent tout près de vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, en tout cas, à l'entrée de Laval ? Est-ce que les spectateurs sont bien présents ?
Oui, il y a énormément de monde. En fait, effectivement, c'est plutôt bien situé, puisqu'on est sur une très belle ligne droite, puisqu'en fait, pour ceux qui connaissent, on sort du rond-point de Bonchamp et en fait, on va traverser tout le boulevard de Chanzy pour arriver au village Félix Grat. Je pense que les écarts vont se faire aussi ici, parce qu'on est vraiment sur une très belle ligne droite. Ensuite, on arrivera dans le centre-ville de Laval, où il sera plus compliqué, parce que forcément, il y aura des tournants et autres. Et donc, du coup, je pense que là, ça va rouler assez dur. Et donc, du coup, il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens. Et je félicite aussi, bien sûr, toute l'organisation du tour, puisque moi, juste en face de moi, il y a toute une installation pour les personnes à mobilité réduite, qui sont bien installées sous des tentes et autres. Et donc, voilà. Donc, tout le monde peut participer à cette belle fête du tour.
Donc, vraiment une fête du tour inclusive. Benoît, tu voulais réagir ?
Ouais, François, tu disais que la différence peut-être se faire ici. Alors, j'ai parlé avec quelques spécialistes du département qui te disent que très clairement, sur un contre-la-montre comme ça, c'est sur les premières bosses que la diff va se faire au niveau des chronos et qu'ensuite, sur le plat, ils vont tous être équivalents. C'est-à-dire qu'ils vont gagner 10 à 15 secondes, 20 secondes peut-être sur le plat, mais c'est les gros punchers du départ qui vont faire la diff.
Surtout que c'est une belle étape pour Puncher. Ah, je pense que le premier coureur... Ah voilà, le Norvégien arrive. Voilà, vous l'entendez en direct.
Le maillot à poids.
Voilà, et donc du coup, il est... Alors, on ne voit pas encore, nous, on est situé, mais a priori, il doit être au niveau du rond-point de Bonchamp et donc va pouvoir entrer, en fait, justement. Donc, le premier coureur va rentrer dans Laval. Et donc, du coup, on va voir un petit peu comment il est, comment il se sent. Je ne sais pas si je reste avec vous, si vous voulez que... Si vous avez...
Est-ce que tu le vois, François, ou pas ? Parce que sinon... on va peut-être revenir vers toi plus tard.
Il ne devrait vraiment pas tarder. Mais voilà, je ne vois pas encore. C'est la voiture qui vient de passer en annonçant son arrivée imminente. Et donc, du coup, là, une des voitures du tour. Mais là, pour l'instant, je ne le vois pas du tout. Je crois qu'il est au rond-point de Bonchamp, mais nous, on n'a pas encore la visibilité sur le rond-point. On voit les gens de loin qui commencent à applaudir. Donc, je pense, à mon avis, qu'il arrive très rapidement. Mais voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui me dites.
Ce premier coureur, c'est l'événement, c'est top. Alors, il y a d'autres enjeux. On te reprendra peut-être, François, évidemment, ouais, derrière. L'enjeu, ça va être combien les leaders, alors là, je parle du classement en général, combien vont-ils pouvoir gagner ou vont-ils pouvoir perdre? Je disais tout à l'heure, ça risque de se faire les différences sur les premières bosses. Mais il y a ce plat derrière. Quand vous êtes gros rouleur, vous allez pouvoir gagner un petit peu. Alors ici, sur des courses comme celle-ci, il faudrait que des carapaces, par exemple, ou des godus perdent moins d'une minute. Donc, vous vous rendez compte, sur 27 km 200, tu disais tout à l'heure, il faut qu'ils arrivent à perdre moins d'une minute sur des Pogacar, Roglic, qui eux vont être les gros spécialistes sur ce type de profil.
Ouais.
Et c'est à vous de voir un petit peu après, vous connaissez le coin, et vous imaginez ce que c'est une minute sur le vélo, puisque nous on dit qu'ils vont courir entre 35 et 40 minutes pour terminer. Vous voyez les différences qu'il peut y avoir entre les profils, sachant que là on parle de grands coureurs qui potentiellement peuvent gagner le tour. Et ben malgré ça, sur 27 km 200, il va falloir qu'ils se battent pour ne pas perdre plus d'une minute et ainsi handicaper derrière tout leur Tour de France, et enfin le compromettre complètement en tout cas.
Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment, on est bien à la seconde près en tout cas sur ses performances.
On est à la seconde près, eux ils savent ce qu'ils ont à gagner ou à perdre. Je reprends David Godu qui est le Français qui marche bien en ce moment et qui lui est considéré plus comme un grimpeur, lui va souffrir aujourd'hui puisque c'est, alors nous évidemment, Mayenne, on va considérer que c'est quand même un contre-la-montre de puncher et un petit peu de grimpeur, mais pour eux, non, ça reste quand même un contre-la-montre de rouleur. Donc un Godu doit faire en sorte de perdre le moins possible sur cette course. Et je vous dis, lui, s'il est à une minute du vainqueur, il va se dire que son contre-la-montre est gagné déjà.
Donc Damien Godu qui est dixième, on va peut-être retrouver François si le Janssen est arrivé, ça y est.
Eh bien non, toujours pas, il n'est toujours pas passé, effectivement la voiture est passée très très tôt parce qu'on n'a toujours pas de coureur, j'espère qu'il ne s'est rien passé. Mais alors, pas de Janssen en vue du tout. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on a vu aussi l'équipe Ineos, assez surprenant, qui est passée il n'y a pas longtemps du tout, faire sa reconnaissance en fait, du parcours, qui est passée il y a environ un quart d'heure. Et donc, on a pu voir effectivement cette belle équipe passer. On sentait qu'il y avait des coureurs qui étaient clairement très en jambes. Et on a pu voir aussi Alaphilippe passer aussi sur cette reconnaissance de parcours. Et on sent que clairement, il est plutôt pas mal non plus. Quoi. Voilà, donc toujours pas de nouvelles de Janssen, je vous fais signe dès qu'il arrive.
Eh bien, de l'équipe Ineos, on avait eu la chance à Sport Épique de recevoir Kevin Yvain. Et Kevin Yvain, qui est le responsable data de l'équipe. C'est quoi un responsable data? C'est lui qui prend toutes les données scientifiques de la course. Donc là, par exemple, c'est lui qui va déterminer comment il s'échauffe. C'est lui qui va déterminer à quel moment ils doivent attaquer. Et c'est lui qui va prendre toutes les données pour savoir qui a réussi son contre-la-montre et qui a raté son contre-la-montre. Et je l'ai vu partir ce matin, ce qu'il est passé dire un petit salut à l'autre radio, bien sûr. Et donc, lui partait vraiment pour ça sur le parcours. Et l'équipe Ineos compte sur lui pour donner un maximum d'informations scientifiques pour savoir à quel moment tu dois rouler et à quel moment il faut que tu acceptes de lever un petit peu le pied parce que là, c'est trop dur pour toi ou parce que là, tu ne vas pas tenir sur la distance qui suit.
Et alors, pour bien comprendre, puisque moi, je me mets de l'extérieur, donc pour comprendre un petit peu les coulisses, ça veut dire que cette personne sera dans les voitures à suivre le coureur et à donner les indications en fonction du parcours et de la performance en direct.
Exactement. Alors eux, ils n'ont pas forcément besoin de suivre sans arrêt, donc ils vont être à un coin et après tout se passe par ordinateur. Ils savent exactement à quel endroit ils passent, avec quel temps, et toutes ces données-là, on les récupère. Alors là, c'est pareil, on va pas parler en termes de spécialisme, mais tout ce qui est watt développé par le coureur, c'est la puissance développée par un coureur. Eh bien, tout ça, lui recueille ça et à partir de là, il peut dire au coureur calme-toi ou il peut dire au coureur accélère, t'es pas dans les temps.
Merci Benoît, et on retrouve François puisque ça y est, Janssen vient de passer à l'entrée
et
de Laval.
Et oui, enfin ça y est, il est là Janssen en fait, le coureur danois, et donc il va passer juste à côté de nous. Donc là, rapidement, il est sorti en tout cas du rond-point de Bonchamp, et là il va passer, alors je peux citer quelques marques, allez, on va passer sur tout le côté Brico, Intermarché, je cite plusieurs magasins, comme ça il n'y aura pas de jaloux et Lidl. Voilà, il passe ici, donc sur cette belle ligne droite là, il est plutôt bien en jambes, mais là voilà, j'entends le public qui le félicite, il va juste passer à nos côtés, voilà. Et donc Janssen, le premier coureur de cette étape du Tour de France, arrivé dans Laval. Et il ne fera pas un grand temps. J'annonce. Dès le début. En tout cas, il est là. Il a le mérite d'être là.
Ce qui est assez logique, puisqu'on est sur le dernier, en tout cas au classement général, du Tour de France, Benoît. Ça semble plutôt normal.
Oui, c'est normal. Je vous dis, pour lui, c'est une étape de repos. Il fait ses 27 km 200 tranquillement et il s'attellera par la suite à aider son leader. Quelque chose dont on n'a pas parlé, Marie, depuis le début. Alors, je ne sais pas si je monopolise un petit peu trop, mais c'est au niveau des chutes de ce Tour de France. Ça a énormément chuté et ce qui est assez rare, c'est que ça a chuté en début de peloton. Et là, ça devient vraiment un bowling, c'est-à-dire qu'évidemment, hein, si vous êtes sur la troisième ligne du peloton que vous chutez, bah, tout ce qui est derrière tombe avec vous. Et tout ce qui est derrière, bah, ce sont les favoris qui sont sur ces premières lignes-là, mais ils ne peuvent pas, les favoris, non plus être sur la première ligne, donc ils sont troisième ou quatrième ligne, bah, et là, ils ont chuté. Roglic a chuté, Pogacar a chuté, Gaël Thomas a chuté, et tout ça, croyez bien que alors nous on a l'impression ils tombent, oh les pauvres, les malheureux, il y a une petite croupe, ils se relèvent, ils vont rouler, tout va bien. Non, derrière ils vous expliqueront qu'ils vivent une nuit d'enfer parce que ça brûle, parce que les croûtes sont en train de se fermer et que pendant 4, 5, 6 jours c'est vraiment infernal sur les vélos parce que oui, la croûte est en train de se former et eux ils doivent continuer à tourner les jambes et c'est un véritable cauchemar pour eux. Donc on pense à des Roglic qui tombent sur l'étape de Quiberon, lui va être forcément, il va falloir le suivre parce qu'il a peut-être déjà perdu le tour, malheureusement. On pense à notre Warren Barguil, d'un Zinzac, évidemment, dans le Morbihan. Warren qui, potentiellement aussi, aurait pu se mêler à la lutte des favoris, mais il est tombé et pour lui, son tour est terminé. Et là, il faut bien se rendre compte que c'est un an d'effort surhumain pour chuter au bout de 24 heures de course. C'est terrible pour eux.
Et qu'est-ce qui peut expliquer que cette année particulièrement, là, dès le début, notamment sur la première étape samedi au départ de Brest, mais aussi celle de lundi, il y a eu autant de chutes? Alors, on a vu, il y a certains spectateurs qui parfois interviennent un peu trop près des coureurs et donc qui créent des chutes, mais c'est pas que dû à ça. Qu'est-ce qui peut expliquer en tout cas cette année autant de chutes dès le départ?
Alors, ce n'est pas que dû à ça, mais il faut quand même le rappeler et surtout pas le dire avec le sourire, parce que je vous dis que quand cette fameuse spectatrice complètement stupide tend sa pancarte, elle ne regarde pas les coureurs, elle est le dos tourné vers les caméras et à ce moment-là elle te fait chuter, tout le peloton quasiment est tombé et là je rappelle c'est un an de dingue qui vient de se mettre par terre pour tous ces gens-là. Le reste des chutes c'est, alors là on dit qu'il y en a plus que les années passées, c'est pas forcément vrai,
on en parle plus en tout cas
mais c'est pas forcément vrai. Et sur ce début du tour, c'est toujours pareil. Les coureurs sont galvanisés à bloc. Ils sont tous en début de tour. Ils ont tous envie de se montrer. Et à ce moment-là, c'est une vraie guerre parce qu'évidemment, il faut amener son sprinter puisqu'on est sur les étapes de sprinter.
Et donc là, le maillot à poids qui vient de passer, François, juste à l'entrée de Laval.
Alors du coup, non, il est pas loin le meilleur point, mais là c'est Daniel Maclay qui arrive de la team Arkea, en fait, qui arrive à 35 minutes, hein, lui au général, qui passe. Et à Fred, juste après, on aura effectivement le maillot à poids qui ne va pas tarder à arriver, parce qu'on voit que ça applaudit aussi au fond où je suis passé. Là, on sent quand même que ça roule un peu plus de ce côté-là. Et voilà, le maillot à poids, qui est le prochain coureur arrivé, en tout cas, voilà, qui risque d'être très applaudi par le public de Lavalois, parce qu'on sait bien que ces maillots distinctifs font toujours plaisir.
Et oui, le maillot à poids fameux. Bah, d'ailleurs, dont tu es vêtu, Benoît, je dévoile un petit peu.
Évidemment, je respecte la course. Et le maillot à poids fait plus rêver que les autres, quasiment. On a la chance, en plus, comme c'est Leclerc, le distributeur, d'en avoir, mais énormément. Alors, je ne sais pas comment ils font pour tout leur Tour de France, mais ils vous balancent 100 000 maillots
à poids.
Et on voit les gens, mais c'est incroyable. Et, ces poids, c'est vraiment très, très distinctif. Qui ne l'a pas? Exactement, François.
Et le voilà, le maillot à poids qui arrive en fait justement dans le Cadaval, qui n'était pas très loin du coup, qui a dû rattraper certainement du temps au coureur précédent, à Maclay. Et donc voilà, le maillot à poids qui arrive dans les rues de Laval, qui va passer devant nous tout de suite là justement, et donc elle a l'air plutôt bien. Et on voilà, très applaudi effectivement, je suis d'accord avec toi Benoît, c'est le maillot, hein, le maillot à poids.
C'est vrai, c'est celui-là qui fait plus rêver que le vert.
Les coureurs, voilà, la montagne, ça nous fait tous rêver, c'est les étapes qu'on garde forcément. Et donc là du coup, alors il l'a porté là, il ne l'aura pas à Paris, hein, on vous l'assure tout de suite, ça ne sera pas lui, il sera le porteur du maillot à poids. Mais en tout cas, de pouvoir le porter sur quelques étapes, j'imagine que pour ce coureur, c'est toujours très appréciable. Et puis voilà, en plus sur un contre-la-montre où on passe en individuel devant les spectateurs, et ben voilà, on est forcément un peu plus applaudi, donc bravo à lui. Et voilà, donc du coup il arrive, on l'entend, le maillot à poids qui rentre dans les rues de Laval pour ce contre-la-montre entre Changé et Laval, et voilà, c'est parti. c'est beau le maillot à poids de boulevard passer. Ah, j'ai envie de pleurer.
Je suis en train de rater ça, moi, François.
Gardez vos larmes, en tout cas, pour garde tes larmes pour cet après-midi, puisque les coureurs n'ont pas fini de passer. Hein. Le dernier, on le rappelle, s'élancera à changer seulement à 16h50, donc le temps qu'il arrive à Laval, probablement plutôt même vers 17h20. On ne sait pas si les spectateurs que vous avez entendus applaudir seront motivés pour rester jusque-là, en tout cas. On parlait justement, en tout cas, pour les maillots, les sponsors, etc. Forcément aussi, le tour ici à Laval a un impact sur le commerce et les commerçants qui se sont préparés à cette journée un peu spéciale. Alors soit peut-être en fermant complètement ou à l'inverse en proposant d'étendre leur activité dehors. Et ils attendent forcément un petit peu plus de tourisme et de monde que d'habitude. Et justement, Claire était allée voir dans les rues de Laval comment se préparaient les commerçants. On les écoute.
C'est Autodiac 53, 85 rue du Vieux-Saint-Louis. Alors, je suis le gérant, je m'appelle Monsieur Mizitis Alem. Mercredi, on soit fermé, on va se rattraper un autre jour, c'est pas un problème. Déjà, je suis déjà en retard, j'ai 3 semaines de délai. Mais bon, alors, je remarque plus rien aujourd'hui. Ah oui, il y a beaucoup de demandes depuis, entre guillemets, le déconfinement. Là, le travail est reparti très fort.
Donc, Monsieur Livet, gérant du bar Le Duplex à Laval. 7 jours avant le Tour de France, grande attraction à Laval. Des gros stocks en prévision. Niveau affluence, c'est la première année, moi, que je vais découvrir le Tour de France, surtout la première étape à Laval. Donc, on ne sait pas trop où se situer. Avec les années précédentes, on m'avait dit que c'était de la folie. Que tous les gens venaient de toutes les villes aux alentours pour venir voir cet événement mondialement connu. J'ai demandé dont une buvette devant chez moi qui a été refusée. Donc, du coup, je vais installer un petit stand bar à bière sur ma terrasse, donc qui a été autorisé. Mais c'est vrai qu'avec l'effet Covid, la crise sanitaire, on n'a pas encore le droit de faire ce qu'on a envie. On a essayé de s'adapter, comme d'habitude, avec une grande terrasse et 1 mètre de distance entre les tables et 6 maximum par table, malheureusement. Dans la bonne humeur, dans la joie, festif, comme d'habitude, dans les gros événements lavallois.
Bonjour, moi je m'appelle Manuel, je travaille à Bexy, à la rue 42 rue du Général de Gaulle, à Laval. Donc nous, on est un magasin de vêtements, on est en plein centre-ville. On attend donc l'arrivée du Tour de France avec impatience. On a des vêtements qui pourraient convenir à toute personne, aussi bien jeune que adulte. Sport, loisirs, plus habillés. Enfin, on a vraiment pour toutes les gammes. Disons qu'à l'arrivée des soldes, malheureusement, au niveau des stocks, on est un peu plus restreint. On ne peut pas recommander non plus comme on le veut. Maintenant, pour le Tour de France, c'est vrai qu'on avait anticipé un petit peu les choses en proposant des modèles avec notamment des vélos, tout simplement, en tant qu'imprimé. Donc écoutez, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde.
Donc le bar, le rond-point, et nous sommes prêts pour la semaine prochaine pour le Tour de France. On n'attend plus que la clientèle. Après les 6 mois et demi de fermeture, on est hâte de retrouver beaucoup de monde.
Et oui, beaucoup de monde forcément dans les rues de Laval. Alors peut-être pas à ce bar, mais si, je pense quand même forcément avec, on l'a dit, hein, ces 100 000, voire peut-être même 130 000 spectateurs attendus tout au long de cette étape du Tour de France, cette 5e étape, donc on le rappelle, qui est au départ de changer et qui arrive à Laval, ici, à l'espace Mayenne, en passant par le centre-ville. Centre-ville où là, il y a forcément une concentration de monde aussi, avec notamment le fan-park, on l'a dit, avec beaucoup d'animations dans ce fan-park qui sont proposées. Vous pouvez notamment suivre la course en direct de l'écran géant. Il y a aussi beaucoup d'animations. Vous pouvez tester vous-même justement sur un home training pour le parcours, pour voir si vous arrivez à faire peut-être mieux que les coureurs. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'autres stands comme ça, avec beaucoup de cadeaux aussi ici à gagner. Sur ce fan park, il y aura aussi Place au vélo qui sera présent avec justement un atelier marquage de vélo pour éviter que vos vélos se fassent voler ensuite. Et donc justement, ils seront présents et toute la journée, le fan park qui est ouvert jusqu'à 18h ce soir. On le rappelle, pas besoin de passe sanitaire. Mais par contre, il faut évidemment votre masque puisqu'il y a du monde. Place au vélo donc qui est présent et qui va nous expliquer justement quel est l'intérêt de cette opération marquage de vélo.
Philippe Moitier, président de Place au Vélo. Il y a 100 marquages gratuits qui sont distribués en partie dans les maisons de quartier de la ville de Laval. D'une part, on remercie la ville de Laval de nous soutenir pour ce marquage et puis de mettre à notre disposition un local provisoire au 4 quai Fouquet à Laval où on peut faire ces marquages. Alors les marquages se font actuellement sur rendez-vous sur notre site internet placeauvélo.org. où les gens viennent donc sur rendez-vous et on peut, dans le cadre de notre local, faire ce marquage, donc soit avec les bons gratuits offerts par la ville de Laval, soit des marquages payants. C'est une façon de booster le marquage contre le vol. Le vol reste un des freins à la pratique du vélo, c'est ce qu'on veut développer. C'est un des procédés aussi, Bicycode, qui est un des procédés parmi d'autres, avec micro-percussion en ce qui nous concerne, même s'il y a d'autres procédés qui existent chez les vélocistes. Ça permet d'avoir une gamme plus étendue de moyens à la disposition des usagers, dont, sachant que nous, on ne grève que les vélos d'occasion, puisque les neufs sont immatriculés chez les vendeurs. Alors, on a un numéro unique par vélo qui est donc rentré sur un fichier national informatisé auquel pourront avoir accès les forces de l'ordre en cas de vélo volé retrouvé pour retrouver le propriétaire. Et nous, on fait donc le marquage à micro-percussion sur le cadre du vélo, en général le tube de selle, souvent côté pédalier. Enfin, on s'adapte en fonction de la géométrie des cadres en fait. Actuellement, on est entre 20 et 30 marquages réalisés, donc ça va se développer début juillet également et en septembre forcément aussi. Donc tous nos adhérents sont informés, mais on va faire davantage de communication puisque c'est ouvert à tout le monde. La consigne qu'on donne, c'est aussi aux gens de s'équiper d'abord d'un bon antivol, de s'en servir parce qu'il y a des gens qui n'attachent pas leur vélo encore. Ça a un côté dissuasif aussi, surtout si on voyage un peu avec son vélo. Bon, c'est quand même intéressant d'avoir une étiquette visible comme quoi le vélo est identifié. Et puis, ça permet de le retrouver en cas de vol plus facilement.
Ce son-là, vous allez l'entendre souvent. Voici le klaxon officiel du Tour de France.
C'est sur un klaxon à trompe qu'on monte spécialement pour le Tour de France. C'est un petit compresseur qui envoie de l'air dans chaque trompe et on peut modifier le son en changeant les durites de place.
Depuis ce garage d'Evry partent chaque année tous les véhicules officiels du Tour de France.
Et oui, c'était un extrait d'un reportage de France 3 diffusé en 2015, justement par rapport à ce petit klaxon si spécifique aux véhicules du Tour de France que vous avez forcément entendu et que vous allez entendre d'ici, là aussi, la fin de journée, puisque vous l'avez compris, le Tour de France, c'est bien toute la journée quand c'est un contre-la-montre. Les départs se font toutes les minutes 30 et je crois même toutes les 2 minutes après pour éviter que les coureurs ne se rejoignent, en fait, tout simplement, puisque l'idée, c'est qu'ils ne soient pas gênés par leurs coéquipiers. On va juste faire un petit point au niveau de la circulation pour rappeler quels endroits sont bloqués ici à Laval. Forcément,
je suis quand même obligé de te corriger, Marie.
C'est vrai.
C'est 2 minutes au départ et 3 minutes ensuite.
C'est
attention,
vrai.
Nous sommes précis sur l'autre radio.
J'ai mal vu. D'accord, ok, autant pour moi, j'avais cru voir 1 minute 30, mais c'est bien toutes les 2 minutes, et donc 3 minutes ensuite. Le point circulation, tout est bloqué donc aujourd'hui à Laval. Le centre-ville, pas la peine d'essayer d'y accéder avant 21h, 22h, voire même, pour être sûr, demain matin. Il y a une déviation qui est mise en place par Laval, par l'ouest de Laval, dans les deux sens. Laval sud vers Le Mans sur la départementale 57, vous pouvez y aller, mais que dans le sens Laval-Le Mans. À l'inverse, Le Mans-Mayenne, c'est que la déviation est, pardon, se fait que dans le sens Le Mans-Mayenne sur la départementale 21. Si vous voulez cet après-midi venir nous rejoindre justement et applaudir aussi les coureurs, des parkings ont été mis en place à l'extérieur de la ville, avec tout près de la LGV à l'est de Laval, au palindrome, sur l'hippodrome, au parking des Rouleries, route de Forcé, et plusieurs autour de Changé, notamment pour les camping-cars. J'imagine que eux sont déjà installés. Ces navettes gratuites donc vont vous permettre de rejoindre ici le centre-ville et puis aussi l'espace Mayenne, là où va se dérouler l'arrivée. Si on fait un petit point pronostic en tout cas, Benoît, pour cette étape, on l'a dit, il y a déjà forcément des favoris sur une étape aussi spécifique qu'un contre-la-montre. Qui est-ce que tu vois s'illustrer ce soir?
Allez, c'est le moment FDJ, vous êtes forcément pas loin d'un bar tabac presse, allez chercher des tickets, je vous donne les 5 dans l'ordre, vous mettez 10 euros, c'est le gros banco. Donc, vous jouez en 1, vous jouez Bisseguer. Alors, c'est pas très connu comme mec, mais attention, je disais tout à l'heure, c'est champion du monde en titre de la spécialité. En 2, vous jouez Campanarts. En 3, vous jouez évidemment Julien
Alaphilippe.
Et vous pouvez jouer derrière 4 Kungs et 5 Richie Porte, c'est mon petit joker. Que Richie Porte, je suis un peu moins sûr, donc misez pas trop trop de blé quand même. Mais avec ça, vous faites un petit ticket normalement.
Bah, très bien, merci beaucoup, c'est bien noté. J'espère aussi pour vous, chez vous, pour ça y est, si vous faites des pronostics aussi en famille, là aussi. Attention, on viendra te demander des comptes si jamais on n'en trouve aucun des cinq. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, ça donne déjà au moins une idée de ce qui pourrait s'illustrer ce soir. Est-ce que finalement, on peut s'attendre à un changement de maillot jaune ce soir? Là, c'est Van Der Poel qui le porte sur ses épaules. Est-ce que... Je vais poser la question, ben oui, là aussi, Team Julien Alaphilippe, est-ce que Alaphilippe va pouvoir récupérer ce maillot jaune?
Oui, messieurs, dames, on va pouvoir s'enflammer comme des dingues, parce que c'est sûr, Julien va le faire à fond, et il a des vraies qualités de rouleur. Maintenant, regardez bien le classement général, Pogacar n'est pas loin non plus en termes de secondes, et Pogacar peut créer la surprise et venir chercher le jaune, malheureusement, sur les épaules de Julien. Donc, il y aura ça à se jouer, et ben, évidemment, nous, on est tous derrière, Julien.
Eh oui, évidemment. Est-ce qu'il y aura aussi là des changements qui sont attendus pour la suite de la compétition, sachant que les épreuves de montagne vont arriver la semaine prochaine? Rapidement, par contre, parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Donc là, Garen Thomas, très clairement, qui était le leader de la Ineos, s'est luxé l'épaule, mais il n'est pas largué. Donc après, vous m'expliquerez, moi, comment on fait un Tour de France avec une épaule luxée. Mais bon, les mecs, ça a l'air d'être des surhommes. Donc ça, c'est pas largué. Et sachant que c'est un gros, gros rouleur. Donc lui, il ne faut pas l'oublier, mais il va essayer de perdre le moins possible. Roglic, c'est pareil. Et je vous dis, Pogacar, là, il est moins avantagé, puisque lui, ce n'est pas forcément un rouleur, c'est plutôt un grimpeur. Mais mine de rien, il ne va pas perdre énormément. Et à partir de là, les places du général, bon, ne vont pas énormément trop changer pour les gros, gros favoris, je dis. Hein.
En tout cas, voilà, il ne faut pas s'attendre à un grand chamboulement dans le haut classement général. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir fait vivre cette étape du Tour de France. Merci aussi à Ben, qu'on n'a pas réussi malheureusement à joindre, mais qui était présent au village départ. Merci aussi à François, qui était à l'entrée de Laval. Et puis à toutes les associations qui ont accepté de nous répondre pour cette émission spéciale. Évidemment, vous pouvez toujours aller applaudir les coureurs jusqu'à 17h30, puisque c'est l'arrivée prévue à l'Espace Mayenne, l'arrivée du dernier coureur du maillot jaune, donc Mathieu Van Der Poel. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur l'autre radio. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle édition de la JT du local.
La JT du local. À 12h15.